Je les ai appelés les meurtres du 450 parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est arrivé dans le 450. Je parle évidemment de Salvatore Scopa, hein, qui a été tué à bout portant dans un hôtel de Laval, suivi de Francis Turgeon, tué à Repentigny, Éric Francis de Souza dans une pizzeria, puis Éric Chabot à Terrebonne, 450. Et le lien qu'on peut faire entre ces quatre meurtres-là, le lien évident, c'est qu'ils ont tous été assassinés dans des endroits publics. Et alors, un hôtel, des rues de quartiers résidentiels paisibles, une pizzeria. Évidemment, ça suscite encore aujourd'hui beaucoup de questionnements et une certaine inquiétude. Parce qu'on se demande, coudon, c'est-tu la nouvelle façon de faire du crime organisé? Et pour répondre à cette question-là, on va aller rejoindre un criminologue qui est spécialiste du crime organisé, Luciano Bentenuto. Bonjour, Luciano.
Bonjour, M. Drinville.
Monsieur Bentenuto, dites-moi, vous, là, de l'extérieur, là, qui en avez vu d'autres, quel message s'envoie de tuer quelqu'un comme ça devant ses proches, dans certains cas, devant des personnes innocentes qui pourraient être des victimes, d'une manière très, très publique?
Bien, il faut décortiquer un peu le phénomène du crime organisé. Première chose, pour moi, c'est pas inhabituel, là. Au contraire, si on suit ce qui passe à... nous autres, on a un trajet qu'on appelle le Golden Horseshoe qui passe de Niagara Falls, Buffalo, Niagara Falls, Hamilton, Toronto et Montréal, qui revient après ça à New York. Fait que le grand cercle du crime organisé est dépasse les limites du 450. Mm-hmm. Et évidemment, la façon de faire dans le crime organisé traditionnel a changé dans les années, cause que, évidemment, on est rendu à la troisième et quatrième génération de membres de crime organisé. Donc, on n'a plus les mêmes standards, les mêmes façons de faire. De façon plus spectaculaire, même récemment, en Ontario, que ce soit à Hamilton, que ce soit à Woodbridge ou à Vaughan, c'est clair que on a même eu un type de fusillade où ce qu'on a tué quelqu'un au banquet, à une salle de banquet qui s'appelle le banquet Aurora. Dans la région nord de Toronto. Fait que pour moi qui suis un peu ce phénomène-là, je le vois partout. Je le vois depuis des années changer, par contre. Et je vous rejoins en termes de c'est quelle sorte de message. Mais évidemment, il faut se mettre dans la peau de ceux qui sont maintenant dans ce monde interlope-là. Et évidemment, comme je vous dis, on est rendu à la troisième, quatrième génération. Et on prend pour acquis qu'ils sont toutes des personnes qui sont de souche, d'un groupe particulier quand pendant les années on a vu les groupes se mixer, c'est-à-dire maintenant le crime organisé traditionnel de souche italien travaille très bien avec les motards, travaille très bien avec les gangs de rue et qu'est-ce qu'on voit? On voit le mélange, qu'est-ce que ça fait? Qui exécute quoi pour qui et le font à leur manière. Évidemment, on rentre dans les années de jeunesse et plus on voit que c'est spectaculaire parce que eux sont habitués maintenant avec les médias, les sociaux médias, s'assurer que le monde voit ce qu'ils font pour qu'ils puissent en parler. Et c'est pas la même méthode. Vous savez, si on regarde dans le vieux temps avec le grand-père Rizzuto qui mettait de l'argent dans ses bas, c'est pas mal plus traditionnel que maintenant arriver avec le Jaguar de l'année devant un bar pour montrer à tout le monde que vous avez de l'argent. Il y a deux façons de faire, effectivement.
Diriez-vous que c'est le code d'honneur n'existe plus maintenant?
C'est que le code d'honneur, effectivement, a changé et vous avez frappé sur un bon point. Le code de mœurs à l'intérieur des organisations a changé. On a changé la formule. On n'est plus avec le grand patron, le petit patron et toutes les différents types de, comment on dit ça, les structures habituelles, mm-hmm. avec le mélange, puis avec les nouvelles alliances qui se font, que ce soit des gangs de rue ou des motards, il faut s'ajuster à la nouvelle réalité. C'était un des problèmes, c'est pas autant que le crime est organisé que peut-être nos agences d'application à la loi sont un peu moins organisées. C'est plus ça la différence.
J'allais dire, bientôt on ne parlera plus du crime organisé, on va parler du crime désorganisé parce qu'effectivement, il n'y a plus une espèce de structure hiérarchique avec une chaîne de commandement, puis des capots, puis des sous-capots, puis des... c'est beaucoup plus éclaté maintenant, le monde du crime organisé.
C'est devenu très fluide à cause justement des nouvelles alliances qui sont créées dans les 15-20 dernières années. Et on voit qu'on a commencé à changer les cellules en initiant des gens qui d'habitude n'auraient jamais fait partie du crime traditionnel. Si on regarde spécifiquement le crime traditionnel de souche italien, c'est clair qu'à un moment donné, si vous ne faisiez pas partie de la famille, vous ne rentriez pas. Mais ça a changé. Évidemment, on voit des gens qui sont affiliés et qui ont marié à l'extérieur de la famille, qui ont marié à l'extérieur de les origines italiennes. Mm-hmm. Et on commence à voir les différents types de mœurs, les différentes façons de faire les choses.
Desjardins est un bel exemple de ça, hein?
Desjardins. Et si on recule encore plus dans le temps de Frank Catroni, on avait le tueur à gages qui était un non-italien et qui a tourné sur le clan Catroni. Fait que c'était peut-être la première brèche dans la formule traditionnelle de souche.
Est-ce qu'ils réalisent les risques qu'ils font prendre à leur propre organisation? Tu sais, j'aimais bien l'image du gars, il arrive avec la super belle voiture, bien vêtu, se stationne devant le bar. Il a pas peur de montrer qu'il a du cash, il a pas peur de montrer qu'il est puissant. Il a pas peur de montrer, dans le fond, que le crime lui a bien profité, puis il est pas gêné de ça. Mais en même temps, d'être aussi, visible, public, y compris dans les meurtres qu'éventuellement on commet, on sait très bien qu'on attire l'attention, puis on va attirer éventuellement l'attention des policiers. Est-ce qu'ils mesurent bien le risque qu'ils font courir à leur propre organisation?
Et vous voyez, c'est là le changement. On parle de la dynamique interne, de la structure. C'est que le jeune d'aujourd'hui est beaucoup plus comme le jeune régulier dans la communauté, qui est « me, myself and I », c'est moi, pour moi, et sans s'en foutre pour l'organisation, est beaucoup moins loyal à l'organisation qu'à ses propres aspirations professionnelles, personnelles. Et lui, il essaie d'avancer sa cause et non pas celle de l'organisation, et de là vient le type de gens qui sont recrutés, sont les gens qui sont, faut le dire, des gens vulnérables et très, très vulnérables à être manipulés. Et on peut faire n'importe quoi à n'importe qui pense graviter et justement se promener avec la même voiture que le grand boss. Et c'est ces gens-là qui font n'importe quoi pour impressionner. Et selon les mœurs aujourd'hui avec les médias sociaux, on sent que les jeunes doivent faire ça avec des coups d'éclat. Et faire ça dans un lieu public, mais encore là, ils choisissent leur lieu public. C'est des lieux publics qui savent, qui sont fréquentés non seulement par la personne qui vont descendre, mais fréquentés par des gens avec qui sont associés à la personne qui va descendre. Donc, le message, c'est « lui, il a passé, imaginez-vous si vous tenez encore ici ». Fait que c'était aussi, c'est pas juste un message pour dire « on a descendu X, Y, Z ». C'est un message pour dire on est capable de descendre n'importe qui tient avec X, Y, Z.
Je veux dire, Luciano Benvenuto, c'est difficile pour les policiers d'infiltrer des organisations comme celle-là dans lesquelles il n'y a plus de hiérarchie, dans lesquelles tu te promènes d'une organisation criminelle à une autre. Ça devient beaucoup plus difficile pour les policiers, non?
Oui, et vous avez frappé encore sur un autre bon point parce que pendant des années, surtout au Québec, la police a divisé leur intervention en trois manières. C'est-à-dire qu'ils ont dédié les gangs de rue à une police locale, municipale, comme Montréal. Ils ont dédié l'aspect des motards criminalisés à la Sûreté du Québec. Et ils ont donné le volet crime organisé traditionnel à la police fédérale, qui est la GRC. Évidemment, en travaillant en silo de même, dans un temps, c'était peut-être très fructueux puis très avantageux parce qu'on spécialisait. Mais aujourd'hui, avec le modèle hybride de ces gangs-là, le fait de continuer à travailler en silo comme ça, fait en sorte qu'ils se trouvent déconnectés de faire les liens entre les divers incidents qui arrivent autour de la communauté. Et il faut arrêter de penser aux frontières. Je viens de vous dire que ça je suis pas surpris de la façon, à cause que je le vois dans les autres provinces, dans les autres villes. Il faut arrêter de penser juste 4-5-0, 5-1-4. C'est vraiment un phénomène. N'oubliez jamais que le crime organisé, c'est international. Fait qu'il faut commencer à penser à travailler vraiment plus, pas juste avec chez nous, avec 3-4 corps policiers, mais vraiment mettre des mécanismes sur place pour échanger des informations de façon internationale et nationale, évidemment, avant.
Quand on regarde les 4 assassinats dont j'ai parlé en début d'entrevue en 9 jours, est-ce que vous pensez que ça annonce un été chaud? Est-ce qu'il faut se préparer à un été chaud, à plusieurs assassinats, à beaucoup de règlements de compte?
Mais c'est parce que le monde, on fait fi seulement de les 4 que vous mentionnez. Mais moi, ça fait, si vous regardez qu'est-ce qui se passe en Ontario, les gens sont tous du même, c'était, oubliez pas. Quand que le parrain ici était à Montréal, il gérait pas Montréal, il gérait le Canada. Et donc, les répercussions de sa disparition font en sorte que les meurtres, si vous faites le calcul officiel des meurtres, il y en a plus que 4. Il y en a des dizaines qui ont survenu dans les 6 derniers mois. Et le monde n'en parle pas parce qu'effectivement, il y a un disconnect. Je sais pas comment le dire en français, là.
Oui, ils font pas les liens. Ils font pas les liens. Vous faites les liens.
Moi, je fais les liens parce que moi, j'ai toujours gérer ces types de dossiers-là de façon mondiale. Moi, je garde mes liens en Italie, je garde mes liens aux États-Unis, je garde mes liens à l'Amérique centrale. C'est important de garder l'œil sur tout ça parce que ça a un impact sur tout ça. Et évidemment, quand on perd le fil puis qu'on pense, bon, ben il est plus à Montréal, il est à Laval, c'est rien, ça, là. Je veux dire, à un moment donné, vous savez que tous ces gens-là étaient dans le nord de Montréal et la plupart ont déménagé pour sortir de l'île de Montréal pour bâtir sur le côté de Laval. Mais ça veut pas dire qu'ils restent juste à Laval. Ils ont des tentacules qui sont partout et il faut faire les liens parce qu'une fois que vous faites les liens, vous allez voir que le portrait est pas si bizarre que ça. Parce que quand vous voyez les gens qui se font descendre soit à Hamilton, soit qui sont à Toronto, soit qui sont à Montréal, New York, Buffalo, c'est clair. Si vous faites le lien officiel de tout ça, ça va être plus facile de voir le vrai portrait.
Et le vrai portrait, c'est une organisation, la mafia, qui se cherche un nouveau chef? Est-ce que c'est ça, si on voulait résumer un peu, là?
Bien, c'est même plus compliqué que ça. Ils cherchent une nouvelle identité. Parce que c'est plus un chef ou deux chefs qui gèrent quoi que ce soit, les commissions, les familles, ça, c'est du traditionnel ancien. Maintenant, c'est des clans qui sont fluides, qui s'échangent comme les cellules de gangs de rue dans le temps quand ils ont commencé. Et ça rend vraiment une atmosphère d'instabilité. Et tant aussi longtemps qu'on ne commence pas à comprendre la nouvelle dynamique de ce genre de criminalité-là, c'est sûr qu'on va être toujours à 2 pas en arrière.
Luciano Bentenuto, criminologue, expert en crime organisé, vraiment expert en crime organisé. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.
Merci, M. Villeneuve. À la prochaine.